La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Eh bien, bonsoir, chers amis, chers frères et sœurs. Et c'est un privilège pour moi que de pouvoir me tenir devant vous de manière à pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous. Et ce soir, nous allons considérer ensemble le sujet du Saint-Esprit. Avec le frère Mikhaïl Lobo, nous avons considéré Dieu le Père hier soir. Avec Pasteur Lenstrom tout à l'heure, nous avons considéré le sujet de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et en cet instant, durant cette heure, nous allons considérer le sujet du Saint-Esprit. Combien de personnes ici ce soir croient que la Bible est la parole de Dieu? Levez la main. Ok, amen. J'aimerais que nous considérions ensemble quelques versets que nous lisons en Matthieu 15 et les 9 premiers versets. Où allons-nous? Matthieu 15. Et nous allons lire du verset 1er à 9. Matthieu 15, versets 1 à 9. Et je vous invite à ouvrir avec moi la parole de Dieu, car la plupart des textes que nous allons considérer nous allons les tirer de la parole de Dieu, bien que certains seront affichés. Et là, il nous est dit, « Alors, des scribes et des pharisiens vinrent de Jérusalem à Jésus et lui dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent point les mains lorsqu'ils prennent leur repas. » Mais il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Car Dieu a donné ce commandement, « Honore ton père et ta mère, et que celui qui maudira son père ou sa mère soit puni de mort. » Mais vous, vous dites, celui qui aura dit à son père ou à sa mère, ce dont je pourrais t'assister est un don consacré à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Et ainsi, vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit, ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Ici, Jésus était en train d'exposer à ses auditeurs qu'il y a un contraste. Il y a une opposition entre les commandements de Dieu et les traditions des hommes, entre ce que Dieu commande et ce que les hommes enseignent. D'accord? Et c'est une chose difficile que d'entendre Jésus déclarer que vous êtes des hypocrites. Et ce, en raison du fait que des personnes se soient attachées à des enseignements, à des doctrines qui ont pour origine l'homme et non pas Dieu. Et c'est ce que Jésus déclarait à son époque. Mais est-ce que Jésus pourrait encore dire la même chose en 2018. Vous savez, en l'an 321 après Jésus-Christ, le repos du sabbat fut transféré au dimanche par l'empereur Constantin. Et en 325 après Jésus-Christ, la coégalité et la coéternité du Père et du Fils fut établie lors du concile de Nicée, lequel fut présidé par Constantin, qui était un observateur du sabbat du dimanche. Et en 381 après Jésus-Christ, le Saint-Esprit fut quant à lui élevé au statut de personne coégale et coéternelle avec le Père et le Fils lors du concile de Constantinople. Nous avons là parlé des étapes qui ont amené au devant de la scène ce que l'on appelle la Trinité. D'accord? Quand est-ce, d'après l'histoire que nous avons relatée ici, à partir de quand, combien de temps après Jésus, cette doctrine a-t-elle vu le jour? Plus de 3 à 4 siècles après Jésus-Christ, mes amis. Ça veut dire que ce n'est que 3 à 4 siècles après Jésus-Christ, c'est après ce laps de temps-là que cette doctrine est arrivée. Avant ce laps de temps-là, les chrétiens ne connaissaient pas une doctrine du nom de la Trinité. Ils ne connaissaient pas un Dieu trinitaire. Et dans un ouvrage, dans un journal qui parle de choses communes de la vie, et dans lequel les catholiques ont mis une déclaration et qui s'intitule Life Magazine du 30 octobre de l'année 1950, les autorités catholiques ont déclaré la chose suivante. Nos opposants affirment parfois qu'aucune croyance ne devrait être un dogme si elle n'est pas explicitement formulée dans l'Écriture. Qu'en tant que chrétiens, vos croyances doivent provenir des Écritures. Mais les églises protestantes ont elles-mêmes accepté de tels dogmes comme la Trinité pour laquelle il n'y a pas d'autorité précise dans les évangiles. Mes amis, ici, les autorités catholiques reconnaissent qu'il n'y a pas d'autorité dans les évangiles pour soutenir la doctrine de la Trinité. Et ici, les autorités catholiques sont en train de dire tacitement que les protestants, en fait, en acceptant la doctrine de la Trinité, n'ont pas de soutien biblique pour croire ainsi. Donc, en affirmant cela, l'Église catholique reconnaît que le fondement de son enseignement ne se trouve pas dans la Bible. Qu'avons-nous dit là? En affirmant cela, l'Église catholique reconnaît que le fondement de son enseignement ne se trouve pas dans la Bible. Et vous savez pourquoi ils affirment cela? C'est parce que dans l'ouvrage Handbook for Today's Catholic, à la page 12, la version de 1979, et en fait c'est un manuel pour les catholiques d'aujourd'hui, d'accord? Et donc là il déclare que le mystère de la Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique sur laquelle se fondent toutes les autres doctrines de l'Église. L'Église étudia ce mystère avec un soin particulier et après 4 siècles de clarification, elle décida de définir la doctrine de la façon suivante. Dans l'unité de la divinité, il y a 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, réellement distinctes les unes des autres. Ainsi, dans les termes du credo d'Athanase, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu et pourtant il n'y a pas 3 dieux mais un Dieu. Le mystère de la Trinité, d'après l'Église catholique, qu'est-ce que cela est? La doctrine centrale de la foi catholique. D'accord? Et sur cette doctrine centrale, dites-moi, qu'est-ce qui se fonde d'après les autorités catholiques? Toutes les autres doctrines. Donnez-moi des exemples de doctrines catholiques. L'adoration de Marie? L'offrande des indulgences, c'est ça? Le purgatoire? La non-immortalité de l'âme? La prière pour les morts, la prière pour les saints? Tout cela, dit l'Église, toutes ces doctrines-là reposent sur la doctrine de la Trinité, d'après ce que l'Église catholique déclare. Et elle continue en disant que l'Église étudia ce mystère avec un soin particulier et après 4 siècles de clarification, comme on l'a vu avec l'histoire, c'est elle qui décida, c'est l'Église qui décida de définir la doctrine de la façon suivante. Ce n'est pas la parole de Dieu, mes amis, et c'est l'Église qui a étudié ça et c'est l'Église catholique, bien évidemment, qui a décidé de cela. Est-ce que vous vous rendez compte à présent du caractère frêle, du caractère fragile de cet enseignement? Nous ne sommes pas ici en train d'attaquer des personnes qui sont catholiques. D'accord? Mais nous sommes en train ici de montrer que le système catholique est fondé d'une manière peu solide. Et en acte 20, où allons-nous? Acte 20, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi. Acte chapitre 20, versets 29 et 30. Nous lisons là, l'apôtre Paul déclare, « Car je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups ravissants qui n'épargneront point le troupeau, et qu'il s'élèvera parmi vous des hommes qui annonceront des doctrines pernicieuses afin d'attirer des disciples après eux. » Remarquez que l'apôtre Paul a prédit une apostasie après son départ. Et remarquez ce qui s'est passé. Remarquez ce qui a eu lieu 4 siècles après, où cela a abouti. Vous savez, lorsque Dieu suscita le peuple adventiste vers la moitié du 19e siècle, comme nous l'avons vu avec le pasteur Allen lors de la première présentation hier soir, eh bien, il les conduisit à retourner à la compréhension biblique concernant le Saint-Esprit. Et cela est exprimé de la façon suivante, dans les principes fondamentaux des adventistes du 7e jour de l'année 1889, où ils ont exprimé le point suivant comme suit. Ils croient qu'il y a un seul Dieu, un être personnel, spirituel, le Créateur de toutes choses, omniprésent, omniscient et éternel, infini en sagesse, en sainteté, en justice, en bonté, en vérité et en miséricorde, immuable et partout présent par son représentant, le Saint-Esprit. Lisons-nous le psaume 39, verset 7. Et c'est ce texte qui est donné comme référence. Mais voyez-vous, la croyance fondamentale numéro 2 de la dénomination des adventistes du 7e jour moderne fait étrangement écho au concile de Nicée. D'ailleurs, comme toutes les autres églises protestantes, leur conception de Dieu ressemble étrangement à cela. Ils disent, dans la croyance fondamentale numéro 2, la Trinité. Il y a un seul Dieu. Notez, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de trois personnes coéternelles. Rappelez-vous qu'avec le frère Obo, nous avons vu qui est Dieu le Père. Avec le pasteur Allen Stump, nous avons vu qui est le Fils de Dieu. Nous avons vu qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans la Bible. Et il est présenté comme étant le Père. Mais dans l'adventisme moderne, tout comme dans toutes les dénominations chrétiennes aujourd'hui, baptistes, méthodistes, pentecôtistes et tous les autres noms que vous pourrez aligner avec les autres que j'ai mentionnés ici, ils disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et que ce seul Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Ainsi, nous voyons que aujourd'hui, toutes les principales églises chrétiennes, eh bien, ont un enseignement concernant la divinité qui est celui de Rome. Et nous allons, en ce soir, considérer, comme je vous l'ai dit, après avoir introduit le sujet de la sorte, considérer de manière attentive et minutieuse le Saint-Esprit. Et dans l'Ancien Testament, il y a deux termes hébreux qui sont employés de manière interchangeable. Et ces deux termes hébreux sont Neshama et Ruach. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi en Job 27, verset 3. Où allons-nous? Job 27, verset 3. Et pendant que vous suivez avec moi dans vos Bibles, je vais exceptionnellement afficher quelques versets sur l'écran. Et voilà comment on se lit ce verset. Tant qu'un souffle, Neshama, me restera, tant que l'esprit, Ruach, de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste et ma langue ne dira rien de faux. Notez qu'ici, le terme souffle et esprit sont employés de manière interchangeable. Et dans ce verset, ils proviennent de deux termes hébreux différents, que sont Neshama et Ruach. Et nous voyons également cela dans Job 33, verset 4, où il nous est dit, c'est l'esprit, Ruach, de Dieu qui m'a fait. C'est le souffle, Neshama, du Tout-Puissant qui m'a donné la vie. Et en réalité, ces deux termes, que sont Ruach et Neshama, sont synonymes. Okay? En Genèse, chapitre 2 et au verset 7, dans la version Louis II, 1910, nous lisons, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle, Neshama, de vie, et l'homme devint un être vivant. » Notez ici que nous avons souffle et que ce terme est traduit à partir de Neshama. Mais en Genèse 6, verset 17, nous lisons, « Et moi, voici, je vais amener le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair qui a souffle. » Et là, ce n'est pas Neshama, mais c'est Ruach. Okay? Qui a souffle de vie de dessous les cieux. Tout ce qui est sur la terre expirera. D'accord? Donc, nous avons ici le terme souffle, qui est présent aussi en surface en Genèse 2, verset 7. Mais en dessous, le terme hébreu qui sont employés, eh bien, ce sont deux termes différents. En Genèse 2, verset 7, c'est Neshama, et en Genèse 6, verset 17, c'est Ruach. D'accord? Donc, nous comprenons ici la chose suivante. C'est que esprit signifie souffle. Lorsqu'on parle de l'esprit dans l'Ancien Testament, cela est équivalent à souffle. D'accord? Et nous avons un terme qui est le terme correspondant en grec dans le Nouveau Testament, qui est le mot pneuma. Et ce terme pneuma dans le grec a un sens très similaire. Et ils véhiculent des concepts qui sont en fait communs. D'accord? Entre autres, nous avons la pensée. D'accord? Rendons-nous en Romains, rendons-nous ensemble, ouvrons nos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 11 et au verset 34. Où allons-nous? C'est exact. Et là, l'apôtre Paul, il cite Ésaïe 40, verset 13, en disant, « Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ?» En Ésaïe 40, verset 13, c'est Ruach qui est employé. Mais lorsque l'apôtre Paul cite ici, il dit « pensée », la pensée du Seigneur. D'accord ? Donc, la pensée. Et en Colossiens 2, verset 5. Rendons-nous ensemble, s'il vous plaît, en Colossiens 2, verset 5. Où allons-nous ? C'est exact. Et là, nous lisons, où l'apôtre Paul dit, « Car si je suis absent de corps, je suis pourtant avec vous en esprit, me réjouissant de voir parmi vous le bon ordre et la fermeté de votre foi en Christ. » Donc, l'apôtre Paul dit qu'il est présent en esprit. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que son être, sa personne intérieure, okay, il était avec eux dans ce sens, d'accord? Par la pensée, d'accord? Il était présent avec eux. Donc, voilà déjà des concepts, okay, que nous pouvons établir à partir de versets qui nous permettent de faire la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais l'esprit, quand nous parlons de l'esprit, la Bible nous présente également que cela a pour sens les paroles. Les paroles. En effet, rendons-nous en Jean, l'Évangile selon Jean, chapitre 6 et au verset 63. Où allons-nous? Jean 6, 63, c'est exact. Et là, nous lisons. Jésus déclare, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus déclare que les paroles sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. D'accord? Et voyez-vous, cela est également le cas dans l'Ancien Testament. En effet, en Deutéronome 32, verset 2, où allons-nous? C'est exact. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Deutéronome 32, verset 2. Et lisons même à partir du verset 1, bien que c'est le verset 2 qui nous concerne, mais lisons à partir du verset 1. Et notez la chose suivante. Il est dit, « Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai, et que la terre écoute les paroles de ma bouche. » Écoutez cela. « Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai, et que la terre écoute les paroles de ma bouche. Ma doctrine coulera comme la pluie. Ma parole tombera comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des pluies abondantes sur l'herbe. » Ici, nous avons là le Seigneur qui parle de pluie. Lorsqu'on nous parle de pluie dans la Bible, on nous parle de l'effusion du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et remarquez comment le Seigneur présente cette effusion du Saint-Esprit. Comme étant une doctrine qui tombe, qui coule. D'accord? Donc, recevoir l'Esprit de Dieu, c'est en fait recevoir les paroles de Dieu. Nous avons vu que les paroles, tout du moins l'Esprit, avait pour sens la pensée, le souffle. Et là, nous voyons que l'Esprit a pour sens et peut également signifier les paroles. D'accord? Les paroles. Et nous pouvons encore donner d'autres textes, tels que, par exemple, Proverbe 1, verset 23. Où allons-nous maintenant? 1, verset 23, c'est exact. Remarquez, où il nous est dit en Proverbe 1, verset 23, « Étant repris par moi, convertissez-vous. Voici, je vous communiquerai de mon esprit en abondance. Je vous ferai comprendre, comment? Mes paroles. » Donc, il dit qu'il va communiquer son esprit en abondance. Et juste après cela, c'est une autre expression. C'est « je vous ferai comprendre mes paroles ». Donc, il est manifeste ici, mes chers amis, que recevoir l'Esprit de Dieu, c'est recevoir la compréhension de la parole de Dieu. Ici, la doctrine de Dieu, sa parole, c'est ce que la Bible nous présente. Et nous devons comprendre que l'homme a été créé à l'image de Dieu, selon que nous avons considéré avec Pasteur Alan Stubb en Genèse 1, verset 26. Et quand la Bible nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu, quelles sont les dimensions par lesquelles Dieu est concerné? L'esprit? Dieu est esprit, c'est cela. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Mais est-ce que Dieu n'est que esprit? Je veux dire, est-ce que Dieu n'a qu'un esprit? En Daniel, chapitre 7, verset 9 et au verset 13. Remarquez, Daniel, quel verset? 9 et 13. Daniel 9 et 13. Et là, il nous est dit. Daniel 7, verset 9 et 13, tout du moins. Daniel 7, verset 9 et 13. Et là, on lit. « Je regardais jusqu'à ce que les trônes furent placés et que l'Ancien des Jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. » Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône comme des flammes de feu, ses roues comme un feu ardent. Verset 13. Je regardais dans ses visions de la nuit, et je vis comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées des cieux, et il vint jusqu'à l'Ancien des Jours, et on le fit approcher de lui. Ici, on nous dit que l'ancien des jours, qui est en fait le Très-Haut, qui est Dieu, eh bien, il avait un vêtement. On nous parle de ses cheveux, de sa tête, d'accord? Et lorsque nous poursuivons l'étude de la description de cet être que nous qualifions de Très-Haut, en Ézéchiel chapitre 1, verset 26, on nous donne encore d'autres caractéristiques. D'ailleurs, même Jean, en Apocalypse, nous donne aussi des caractéristiques. Il nous brosse, il esquisse des caractéristiques de celui qui est assis sur le trône et qui est présenté comme Dieu le Très-Haut. Ainsi, Dieu a une apparence physique, mais il a, bien évidemment, comme nous l'avons dit dès le départ, un esprit. Et un auteur chrétien assez connu a écrit la chose suivante dans l'ouvrage « La tragédie des siècles » à la page 699, paragraphe 3. « Au commencement, l'homme avait été créé à l'image de Dieu, non seulement au moral, mais aussi au physique. Et cette ressemblance, le péché l'a presque entièrement oblitéré. » Donc, nous avons là un témoignage, d'accord, de cet auteur inspiré qui est rendu de ce que l'homme a été créé à l'image de Dieu selon deux aspects, intérieur, extérieur, moral et physique. Ainsi, l'Esprit de Dieu est donc son être intérieur, lequel n'est pas limité à sa forme physique. C'est-à-dire que Dieu, le Père, il est présent à un endroit bien précis dans l'univers. D'accord? Mais par son esprit, d'accord, il peut être omniprésent. Et voyez-vous, cette ressemblance a ses limites, d'accord? Cette ressemblance entre Dieu et l'homme a ses limites. En effet, seul l'esprit de Dieu peut avoir une existence consciente séparée de sa forme physique. Autrement dit, Dieu peut être bel et bien présent à un endroit, okay, et nous savons qu'il est présent dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, okay, à l'heure actuelle, et pourtant, par son esprit, être omniprésent et habité dans chacun de ceux qui le reçoivent et qui sont devenus ses enfants. Et voyez-vous, l'apôtre Paul va jusqu'à comparer l'esprit de Dieu et celui de l'homme, selon ce que nous lisons en 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 16. Où allons-nous? 1 Corinthiens 2, versets 10 à 16. Et là, on dit, nous lisons, « Mais Dieu nous les a révélés par son esprit, car l'esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. » Quel esprit qui sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu? L'esprit de Dieu, d'accord? Ok. Verset 11. « Car qui est-ce qui connaît ce qui est en l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Je m'arrête ici. Vous avez bien vu comment l'apôtre Paul a comparé cela. Il fait comprendre que ce qui peut connaître ce qui est en l'homme, c'est l'esprit de l'homme. D'accord? De même, ce qui peut connaître ce qui est en Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Si je vous dis que seul mon esprit peut savoir ce qu'il y a ici, est-ce que vous allez croire que mon esprit, c'est quelqu'un d'autre que moi? Non. De même, quand Dieu dit que seul son esprit peut connaître les profondeurs de Dieu, est-ce que, à la lumière de ce que nous avons dit jusqu'ici, on peut conclure que l'esprit de Dieu, c'est quelqu'un d'autre que Dieu? Non. Non. Et poursuivons la lecture jusqu'au verset 16. « Pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. » Pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu. Et nous les annonçons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, expliquant les choses spirituelles aux spirituels. Or, l'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui semblent folie, et il ne les peut connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel juge de toutes choses, et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous, nous avons la pensée de Christ. D'accord? Donc, ici, nous voyons de manière très claire que Eh bien, lorsque nous parlons de l'Esprit de Dieu, nous faisons bel et bien allusion à Dieu lui-même, d'accord? D'ailleurs, c'est intéressant. J'aimerais vous prendre un texte rapidement en Daniel. Daniel, le livre du prophète Daniel, est au chapitre 2. Et lisons le verset premier. Daniel, chapitre 2, et lisons le verset premier. Et là, on nous dit, « Or, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes, et son esprit fut troublé, et son sommeil interrompu. » Dites-moi, d'après le texte biblique, je dis bien, d'après le texte biblique, qu'est-ce qui a été troublé? L'esprit de Nebuchadnezzar. OK, maintenant, je voudrais vous poser une question. Est-ce que Nebuchadnezzar a été troublé? Ah bon? Mais pourtant, le texte dit que c'est son esprit qui a été troublé. Quand le texte dit que l'esprit de Nebuchadnezzar a été troublé, tout le monde comprend que c'est Nebuchadnezzar dans son fort intérieur qui a été troublé. Alors, pourquoi quand Dieu nous dit de ne pas attrister son esprit, son Saint-Esprit, pourquoi devrions-nous conclure que c'est quelqu'un d'autre que Dieu que l'on attriste, quelqu'un d'autre que le fort intérieur de Dieu qui est en nous que nous attristons? Il n'y a pas lieu de conclure autre chose, mes amis. Car de la même manière que l'esprit de l'homme est en l'homme, de la même manière que l'esprit de Dieu est en Dieu. OK? Et il y a une spécificité, comme nous avons commencé à l'ébaucher tout à l'heure avec Dieu, c'est qu'il est omniprésent par son esprit. Et cela, nous pouvons le prouver entièrement, clairement et de manière simple en Psaume 139, versets 7 et 8. Où allons-nous maintenant? C'est exact. Allons-y donc. Psaume 139, versets 7 et 8. Et là, nous lisons « Où irai-je, dit le psalmiste David, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte, tout du moins aux cieux, tu y es. Et si je me couche au sépulcre, t'y voilà. » Remarquez, David comprenait que quel que soit l'endroit où il se trouvait, l'Esprit de Dieu le suivrait et serait là. Donc, Dieu est omniprésent par son esprit. Et remarquez que, alors que la Bible ne parle jamais de Dieu, l'esprit, elle parle de l'esprit de Dieu, de l'esprit de Christ. C'est ce que nous avons dans la Bible. On nous parle de l'esprit de Dieu, de l'esprit de Christ, du Saint-Esprit, mais jamais vous verrez dans la Bible Dieu le Saint-Esprit. Vous verrez Dieu le Père, vous verrez Jésus-Christ, Fils de Dieu, Jésus-Christ, Dieu, mais vous ne verrez jamais Dieu le Saint-Esprit comme la Trinité nous le présente. Et la raison pour laquelle la Bible alterne en nous parlant de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Christ, c'est parce que, en fait, Dieu et Christ partagent le même esprit, bien-aimés. Et nous voyons cela en Romains, dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 8 et au verset 9 et 11. Où allons-nous? C'est exact. Romains 8, verset 9 à 11. Et là, nous lisons. Et prêtez bien attention à cela. Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit. S'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vivant à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Remarquez ici comment l'apôtre Paul emploie de manière interchangeable l'expression « l'Esprit de Dieu », « l'Esprit de Christ », « l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ». Tout cela pour nous parler d'un seul esprit. Tout cela pour nous parler d'un seul et même esprit. Vous avez compris cela? C'est clair? Ou est-ce qu'il faut que je reprenne ce point? Remarquez à nouveau. Jetez un regard sous le verset, en Romains 8. Il nous parle de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Christ, de l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Le Père, c'est-à-dire Dieu le Père, et le Fils, le Christ, ils partagent le même Esprit. Et la Bible, mes amis, nous présente le Saint-Esprit comme étant consolateur, d'accord? En 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, où allons-nous? Remarquons ce que l'apôtre Paul nous présente ici. En 2 Corinthiens 3, verset 17, « Or, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Qui est le Seigneur ici?
Jésus.
Et l'apôtre Paul nous dit que le Seigneur est l'Esprit. Autrement dit, s'il nous faut remplacer par celui qui est identifié dans le contexte, c'est Jésus qui est l'Esprit. OK? Et en 1 Corinthiens 15, verset 45, où allons-nous? Nous lisons là, « Suivant qu'il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante. » Mais le dernier Adam, et c'est qui le dernier Adam? C'est Jésus-Christ. Le dernier Adam est un esprit vivifiant. OK? Le dernier Adam, Jésus, est un esprit vivifiant. L'apôtre Paul nous présente ici Jésus comme étant celui qui se manifeste à travers l'esprit. Elle identifie Jésus comme étant l'être de qui nous recevons l'Esprit. Et en Apocalypse, en Jean 14, verset 26, on nous présente le Saint-Esprit comme étant le Consolateur. OK? Voyez-vous, il est clair, sous la base de ce que nous venons de dire jusqu'à présent, que Jésus est ce consolateur. Et voyez-vous, pensez à cela. Et nous allons prendre le temps d'examiner cela durant les minutes qui vont suivre. Mais est-ce que quelqu'un peut vous consoler s'il n'a pas d'abord expérimenté ce que vous-même vous expérimentez? Non, on ne peut pas vous consoler. On peut pas, cette personne ne peut pas vous consoler. Voyez-vous? Jésus est celui qui est venu sur terre, qui a vécu dans notre humanité, qui sait ce que c'est que d'avoir faim, d'avoir soif, que d'être fatigué, que d'être tenté. Qui mieux que Jésus peut nous consoler, mes amis? Jésus seul. Je ne pense pas, voyez-vous, que Dieu aurait pris le soin de nous envoyer son Fils, de le faire vivre sur terre plus d'une trentaine d'années pour ensuite envoyer quelqu'un d'autre pour nous consoler. Cela n'a pas de sens, mes amis. Cela n'a pas de sens. Remarquez ce qu'il nous est dit en Jean 14. Jean 14, et considérons le verset premier. Là, on nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Problème. Comme on dit, tête chargée. Problème. Ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte nous dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Ah. Et remarquez le verset 6 maintenant. Jésus dit, il lui dit, il parle à Thomas et il dit à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Qui est Jésus?
chemin, la vérité, la vie.
Jésus est le chemin, la vérité et la vie. OK. Remarquez ce que Jésus dit à partir du verset 15 maintenant de Jean 14. Jean 14, verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et j'apprierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. » Stop. Stop. Jésus dit qu'il priera le Père qui nous enverra un autre consolateur, et cet autre consolateur est l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité? Mes amis, qui est la vérité? Jean 14, verset 6, Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, quand on nous parle de l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit de qui, en fait? L'Esprit de Jésus. OK. D'accord. Et cela est tellement vrai qu'en continuant, il dit l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, Jésus dit ça aux disciples, vous le connaissez. Parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Mes amis, qui est-ce qui était avec les disciples au moment où Jésus parlait? Qui est-ce qui était avec eux?
Jésus lui-même.
Jésus lui-même. Donc, Jésus est en train de leur dire, « Moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, je prierai le Père afin qu'il vous envoie l'Esprit de vérité, c'est-à-dire mon Esprit, et qu'il viendra habiter en vous. » il est avec vous, mais bientôt il sera en vous. Et cela est tellement vrai qu'au verset 18, remarquez ce qu'il dit. Verset 18, « Je ne vous laisserai point orphelin, je viens à vous. » C'est qui le « je » ici?
Jésus.
Donc, c'est qui va venir en eux? C'est Jésus. Est-ce que vous voyez tous les versets qui, l'un après l'autre, lorsque nous les comprenons, nous voyons qui est-ce qui est le Consolateur? Nous comprenons, nous découvrons l'identité du Consolateur. Et cela est très intéressant, mes amis, car le mot Consolateur vient d'un terme grec qui est parakletos. Car on nous dit ici, le mot Consolateur est traduit à partir du grec parakletos. Et est-ce que vous savez comment ce terme grec parakletos est traduit à un autre endroit dans justement par genre dans ses épîtres? Eh bien, notez que c'est avocat. Lorsqu'on vous dit que Jésus est notre avocat, si vous faites des recherches, vous allez découvrir que le mot avocat a été traduit à partir de parakletos. Donc, Jésus, notre avocat, Jésus, notre consolateur, dans le grec, il n'y a qu'un seul terme pour ces deux choses-là, c'est parakletos. OK? Parakletos qui signifie intercesseur, personne appelée à côté d'eux, d'accord? Et voyez-vous, l'apôtre Paul nous dit, qui est-ce qui nous console? L'apôtre Paul nous dit, qui est-ce qui est impliqué dans le processus de consolation? Remarquez avec moi en 2 Corinthiens 1, et lisons à partir du verset 2. Où allons-nous? 2 Corinthiens 1, et lisons à partir du verset 2. Là, on nous dit, « La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et notez, le Dieu de toute consolation. » Ah, le Père est le Dieu de toute consolation. OK? Donc, c'est lui la source de la consolation. OK. Verset 4. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu, nous puissions consoler tous ceux qui sont dans quelques afflictions. Car, comme les souffrances de Christ abondent en nous, ainsi notre consolation abonde par Christ. Dieu est le Père de toute consolation. C'est lui qui est la source de la consolation. Et comment il nous apporte cette consolation? D'après le verset 5, par Christ. Donc, Christ est le canal de la consolation. Mes amis, Dieu le Père est celui qui nous console par son Fils, Jésus. Est-ce qu'on peut dire « Amen » à cela ce soir en Haïti?
Amen.
Amen. Dieu le Père est celui qui nous console par Jésus-Christ, son Fils. Il n'est pas question ici, mes amis, d'un troisième être. C'est Dieu, par son Fils, qui nous console, mes amis. Et à moins d'avoir vécu une expérience similaire, on ne peut pas sympathiser avec quelqu'un. Et voyez-vous, l'auteur inspiré auquel nous avons fait mention tout à l'heure, déclara la chose suivante dans l'ouvrage, dans le périodique The Review and Herald, le 26 août 1890. Et notez cela, la raison pour laquelle les églises sont faibles, maladives et sur le point de mourir est que l'ennemi a fait entrer des influences d'une nature décourageante pour les faire subir à des âmes tremblantes. Il a cherché à cacher à leur vue Jésus comme étant le consolateur, quelqu'un qui reprend, qui avertit et qui les exhorte. Qu'est-ce qui décourage l'Église?
Satan.
Et comment il décourage l'Église, Satan? Il cache à la vue des croyants de l'Église que qui? Que Jésus est le consolateur. Est-ce qu'elle dit un consolateur?
Non,
elle dit le consolateur. Oh! Poursuivons. Dans Manuscript Releases, volume 19, à la page 297 et 98, elle dit « Alors que par la foi nous regardons à Jésus, notre foi perce l'obscurité et nous adorons Dieu pour son amour merveilleux en donnant Jésus un consolateur? » Le consolateur. Combien de déclarations avons-nous vues de Mme Ellen White disant que Jésus est le consolateur? Jusqu'à présent, on en a vu deux. Mes amis, si on vous dit quelque chose une fois, c'est que cela est important. Mais si on vous dit quelque chose deux fois, c'est que cela est très important. Mais maintenant, si on vous dit la chose trois fois, The Review and Herald, le 27 janvier 1903, qu'ils étudient le 17e chapitre de Jean et qu'ils apprennent comment prier et comment vivre la prière de Christ. Il est leur consolateur. Il demeurera dans leur cœur, rendant leur joie complète. Ses paroles seront pour eux comme le pain de vie. Une fois, c'est important. Deux fois, c'est très important. Trois fois, c'est quoi alors? Extrêmement? Et si en cas de 12 autres, en quatrième fois, c'est qui ça? Manuscript Releases, volume 9, page 49. Le Sauveur est notre consolateur. Cela, j'en ai fait l'expérience. En tout cas, oui. Merci, ça va les créoles. Merci. Le Sauveur est notre consolateur. C'est ce que l'auteur déclare, mes amis. La Bible nous dit que Jésus est le consolateur. Et le témoignage de Jésus va dans le même sens, mes amis. Alors, étant donné que la Bible et l'Esprit de prophétie disent que Jésus est le consolateur, pourquoi Jésus nous a-t-il parlé d'un autre consolateur? Pourquoi nous a-t-il parlé d'un autre consolateur? Voyez, le terme autre, le terme qui est traduit par autre dans Jean 14 et au verset. On va prendre le verset ensemble. Jean 14, et au verset 16, où Jésus dit « Je vous enverrai un autre consolateur ». Eh bien, cela vient du grec « allos », d'accord? Le terme grec qui est traduit par « consolateur » vient de « allos ». Et « allos » signifie « un autre d'une même nature ». Et ce terme est en opposition, d'accord? Ce terme est en contraste avec un autre terme qui est parfois traduit par « autre », qui est hétéros, ok? Et hétéros, quant à lui, signifie un autre, mais d'une nature différente. Frère Chanson, tu peux me donner à boire, s'il te plaît? Tu as un verre, pour moi. T'as pas une tabale, Étienne? T'as pas une tabale, ok, c'est pas grave. Mais viens, Frère Chanson, viens. Tu peux vider ça pour moi? Vide ça pour moi, là. Tiens ça. Frère Chanson, viens voir, je vais me donner à boire, s'il te plaît. Stop, merci. Ça, disons que ça, c'est un verre d'eau. Ça, c'est un verre, d'accord? Une table en plastique. OK? Frère Chanson, donne-moi un autre verre d'eau. Stop. Qu'est-ce que j'ai demandé à Frère Chanson? Mais est-ce qu'il m'a donné un autre verre d'eau? Est-ce qu'il est allé prendre une autre bouteille pour me donner une eau différente?
Non.
Qu'est-ce que je lui ai demandé en fait? Je lui ai demandé de me donner davantage de la même eau. Mes amis, c'est exactement ce que Jésus voulait dire en fait, en disant un autre consolateur. Parce que c'est alos qu'il utilise. C'est-à-dire un autre de la même nature. Autrement dit, il allait demander à son Père de donner à ses disciples davantage du même consolateur. Amen. Amen. Merci, Frère Chanson. Mes amis, le réconfort, le consolateur que les disciples devaient recevoir serait de la même nature. Mais cela n'implique pas qu'il serait différent. D'accord? Et voyez-vous, en se référant à lui comme, eh bien, le consolateur, Jésus n'était pas en train de faire une chose étrange. Qu'avons-nous dit là? Jésus n'était pas en train d'opérer d'une manière bizarre en parlant de lui comme étant le consolateur. D'accord? Car cela est déjà arrivé à Jésus de parler de lui-même à la troisième personne du singulier. Par exemple, je pourrais dire, moi je parle, et je vous dirais, regardez le prédicateur qui est devant vous. C'est moi qui parle. Et je vous dis de me regarder. Mais je ne vous dis pas de me regarder, je ne vous dis pas regardez-moi. Je vous dis regardez le prédicateur qui est devant vous. Je parle de moi à la troisième personne du singulier. C'est exactement ce que Jésus est en train de faire là. Et il l'a aussi fait ailleurs. Quand Jésus dit le Fils de l'homme reviendra, le Fils de l'homme ceci, le Fils de l'homme cela, de qui parle-t-il? Il parle de lui-même. Et pourtant, il ne dit pas, moi, je vais revenir, moi, je suis le Fils de l'homme. Il dit directement le Fils de l'homme. Mais nous tous, nous comprenons qu'il s'agit de Jésus, OK? Donc, ce n'est pas une chose étrange qu'il fait lorsqu'il parle de lui à la troisième personne du singulier. Et remarquez la déclaration de l'auteur, du même auteur que tout à l'heure, dans Manuscript Releases, volume 14, à la page 23, où on nous dit, encombré de l'humanité, Christ ne pouvait pas être personnellement en tout lieu. C'est pourquoi il était avantageux pour eux qu'il les quitte, qu'il aille vers son Père et qu'il envoie l'Esprit Saint pour qu'il soit son successeur sur la terre. L'Esprit Saint est lui-même dépouillé de la personnalité humaine et indépendamment de celle-ci. Il allait se représenter lui-même comme l'omniprésent, partout présent par son Saint-Esprit. Ici, l'auteur nous dit que Jésus était encombré de l'humanité. Et à cause de l'humanité, il ne pouvait pas personnellement être en tout lieu. Et c'est pourquoi il était en train de faire la prière. D'accord? Il pria à son Père. Il disait à ses disciples qu'il allait prier son Père pour leur envoyer le Saint-Esprit. Et ici, l'auteur nous dit qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui-même. C'est qui le lui-même ici? C'est Jésus-Christ, mes amis. C'est Jésus-Christ dépouillé de la personnalité humaine. D'accord? Donc, si des gens viennent vous voir et vous disent que Madame White, l'écrivain Ellen White, croyait en la doctrine de la Trinité, regardez ce qu'elle dit ici. Regardez ce qu'elle dit ici. Elle dit que l'Esprit Saint, c'est lui-même dépouillé de la personnalité humaine. D'accord? Et j'aimerais que nous considérions une autre déclaration. Dans Manuscript Releases, volume 14, à la page 179, où nous lisons, « Il n'est pas essentiel pour vous de connaître et d'être capable de définir ce qu'est précisément le Saint-Esprit. Christ nous dit que le Saint-Esprit est le Consolateur, et le Consolateur est l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité que le Père enverra en mon nom. Je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et elle cite Jean 14, 16 et 17. Et en continuant, elle déclare, cela se réfère à l'omniprésence de l'Esprit de Christ, appelé le Consolateur. Jésus dit encore, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Là, elle nous parle de l'omniprésence de l'Esprit de Christ, appelé le Consolateur. D'accord? Donc, le Consolateur, c'est l'omniprésence de l'Esprit de Christ. OK? Et même en continuant, elle dit, « Il est de nombreux mystères que je ne cherche pas à comprendre ou à expliquer. Ils sont trop élevés pour moi et trop élevés pour vous. Sur certains de ces points, le silence est d'or. La piété, la dévotion, la sanctification de l'âme, du corps et de l'esprit, c'est là ce qui est essentiel pour nous tous. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, il est manifeste ici que la Bible et le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie, sont clairs à ce propos. Et vous voyez, s'il y a un livre qui fait la lumière sur les sujets importants et vitaux, d'après vous, quel est ce livre? Oui, mais quel livre dans la Bible? Parce que la Bible est composée de plusieurs livres, d'accord? Le frère Chanson dit l'Apocalypse. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Alors, un frère n'est pas d'accord avec toi. Mes amis, l'Apocalypse, comment cela commence? Comment cela commence? On nous dit « révélation de Jésus-Christ ». Est-ce que le texte commence en disant « mystère caché de Jésus-Christ »
Non.
Non, révélation. Ça veut dire qu'on enlève le voile et les choses sont claires. Et mes amis, dans ce livre, les choses sont vraiment claires en ce qui concerne le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez déjà lu les lettres aux sept églises d'Asie qui sont présentes en Apocalypse 2 et en Apocalypse 3? Oui, d'accord. Et qui est-ce qui prononce, qui divulgue et qui dit à l'ange d'écrire telle et telle chose à chaque fois? C'est qui en est l'auteur de ces lettres?
Jésus.
Alors, c'est qui se présente au départ?
Jésus.
C'est qui au début de chaque lettre se présente?
Jésus.
C'est Jésus-Christ qui se présente. Mais comment il termine chacune de ces lettres? À chacune de ces lettres, mes amis, Jésus termine en disant que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est Jésus qui parle. Et pourtant, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, c'est la révélation, mes amis. On ne peut pas être plus clair que ça. On ne peut pas être plus clair que ça. Je ne vous laisserai point orphelin. Je viens à vous, Jean 14, verset 18. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Car où il y a deux ou trois personnes assemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mes amis, qui est-ce qui est présent par son esprit avec nous? C'est Jésus. Et c'est pour cela que la présence du Saint-Esprit chez l'homme est appelée Christ en vous, d'après l'apôtre Paul en Colossiens 1, verset 25. Et lorsque Christ vit en nous par son esprit, eh bien, nous sommes alors en mesure d'avoir les sentiments ou la pensée du Christ. D'accord? Et j'aimerais que nous puissions, nous n'aurons pas le temps de tout exposer, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler du péché contre le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le péché contre le Saint-Esprit? Alors, le péché contre le Saint-Esprit, est-ce que c'est quelque chose qui peut être pardonné? Aucun pardon. Donc, mes amis, il est important d'être au clair sur le péché contre le Saint-Esprit. Il est important d'être au clair là-dessus. Vous savez, il y a des gens qui disent que lorsque vous rejetez la Trinité, vous commettez le péché contre le Saint-Esprit. Parce que vous rejetez le Saint-Esprit. Mais est-ce que nous sommes en train de rejeter le Saint-Esprit ici? Non! Nous sommes en train de clarifier l'identité du Saint-Esprit. Mais il nous faut bien comprendre, mes amis, ce qu'est le péché contre le Saint-Esprit. Alors, rapidement, et nous allons prendre quelques minutes, mais courtes minutes, pour pouvoir exposer ça. Matthieu 12, versets 22 à 32. Et nous allons terminer avec cela, puisque le temps est arrivé à son terme. Matthieu 12, versets 22 à 32, et j'ai sauté pas mal de sections pour conclure rapidement. Matthieu 12, versets 22 à 32, nous lisons. « Alors on présenta à Jésus un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que celui qui avait été aveugle et muet parlait et voyait. Tout le peuple en fut étonné, et il disait, « Cet homme ne serait-il pas point le fils de David ?» Mais les pharisiens, entendant cela, disaient, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Mais Jésus connaissait leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne subsistera point. » Que si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le règne de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller son bien? S'il n'avait auparavant lié cet homme fort, après quoi, il pourrait piller sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera point pardonné. Et si quelqu'un a parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui aura parlé contre le Saint-Esprit n'en obtiendra le pardon ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir. Est-ce que Jésus était en train de combattre la doctrine de la Trinité? Est-ce que c'est ce qu'il est en train de faire ici, de manière directe? C'est pas ce qu'il est en train de faire ici. Jésus était en train de faire un miracle, d'accord? Il était en train de faire un miracle, d'accord? Et il faisait le miracle par la puissance de Dieu. C'est par la puissance de Dieu que Jésus était en train d'accomplir un miracle. Mais les Juifs disaient que non, ce n'est pas par la puissance de Dieu, c'est par la puissance de Satan qu'il accomplit ce miracle. D'accord? Et c'est à cette occasion que Jésus leur a fait comprendre que là, ils étaient en train de pécher contre l'Esprit. C'est-à-dire que l'œuvre de Dieu, ils étaient en train de la qualifier d'œuvre de Satan. Et mes amis, c'est ça le péché contre le Saint-Esprit. C'est qualifier l'œuvre divine d'œuvre satanique et vice-versa, l'œuvre satanique d'œuvre divine. Et en réalité, lorsque nous faisons cela, nous sommes en train, eh bien, de rejeter quelque chose de bien précis. Et dans Review and Herald, le 29 juin de l'année 1897, Ellen White déclare: personne n'est contraint de voir le péché contre le Saint-Esprit comme quelque chose de mystérieux et d'indéfinissable. Le péché contre le Saint-Esprit consiste en un refus persistant de répondre à l'invitation de se repentir. Si vous refusez de croire en Jésus-Christ comme en votre sauveur personnel, vous aimez les ténèbres plus que la lumière. Vous aimez l'atmosphère qui entourait le premier grand apostat. Vous choisissez cette atmosphère de préférence à l'atmosphère qui entoure le Père et le Fils. Et Dieu vous permet de suivre votre choix. D'après l'auteur, le péché contre le Saint-Esprit, comment elle le résume? Comment résume-t-elle le péché contre le Saint-Esprit? C'est de choisir l'atmosphère qui entoure Satan plutôt que l'atmosphère qui entoure le Père et le Fils. Mes amis, en lisant cela, nous comprenons que l'Esprit de Dieu n'est certainement pas l'Esprit de la Trinité. Puisque là, on nous parle de l'atmosphère qui entoure le Père et le Fils. Est-ce que ce soir, nous voulons être remplis de l'Esprit de Dieu? Est-ce que ce soir, nous voulons être remplis de la présence du Christ? Est-ce que nous voulons dans notre vie de l'esprit de celui qui a vécu dans notre humanité et qui a vaincu le péché et qui a surmonté toutes les épreuves? Est-ce que nous voulons de sa victoire dans notre vie? Est-ce que nous voulons de sa puissance dans notre vie? Mes amis, pour cela, nous devons accepter la présence du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Nous devons lui permettre de vivre dans notre vie. Et c'est pour cela que si vous voulez accepter en ce soir Jésus-Christ comme votre consolateur, le Seigneur qui désire vivre en vous, eh bien je vous invite à vous agenouiller avec moi et nous allons prier.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.